Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben...
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchy.
Mesdames et messieurs, nous sommes lundi le 24 avril, il est 14h, c'est l'heure d'écoute locale, les entrevues, une émission durant laquelle moi-même, Émilie Rioux, je rencontre un à un les artistes de la scène locale de la ville de Québec pour jaser musique. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Antoine Bourg!
Comment on se retrouve, Émilie?
On se retrouve toujours quelque part, Antoine.
Oui, tout le temps, maintenant.
En studio, au coin de la rue, sur une scène, voilà. Le destin ne nous dit jamais où on va se rencontrer, alors c'est toujours une belle surprise. Quoique là, je m'attendais un peu à te voir, je t'ai invité.
J'espérais que t'as amené ta trottinette cette fois-ci.
Elle n'est pas encore sortie, ça s'en vient.
Elle n'était pas pétée aussi?
Il est arrivé plein de mésaventures, mais là, j'attends le moment opportun.
Ouais, après qu'elle ait nettoyé les rues.
Ben, oui, c'est ça. Quand il n'y a plus de neige, évidemment. Mais on est non seulement ici pour jaser de trottinette, mais aussi de musique. Antoine Bourg, c'est pas tout le monde qui te connaît parce que tu œuvres autant dans le domaine d'avoir un band que d'accompagner des bands, que bref, t'as une carrière musicale assez éclatée jusqu'à maintenant. On va en parler un peu de tout ça. On te connaît notamment comme chanteur du groupe Les Lunatiques qui a lancé tout dernièrement son premier album complet, premier long jeu Orange Flottant. Ça s'est passé vendredi au Pantoum. Comment t'as trouvé ton expérience, Antoine, de lancer un album au Pantoum?
Écoute, ben c'était évident qu'on allait faire ça là. Ouais. C'est comme là qu'on pratique, c'est là qu'on a enregistré. Fait que ben, la suite logique, c'était de jouer là, puis c'est rendu comme une famille presque.
Ouais.
Je dis presque, mais
c'est une famille. Oui, oui. Puis je pense que les Lunatiques sont avec les disques Durvie également.
Exactement.
Donc le label du Pantoum. Ben, alors c'est vraiment tout est dans tout.
On n'avait pas le choix.
Dans cette histoire-là. Et vous avez eu une salle comble pour le lancement des Lunatiques. Oui. Beaucoup d'enthousiasme. Les gens qui connaissaient les chansons.
Ouais, j'y étais. Encore sur un nuage, ouais. D'ailleurs. C'est la première fois que j'entendais autant de monde chanter les paroles.
Ouais.
Ouais,
ça va bien.
Fait un petit velours, c'était le fun.
C'est cool, ouais. Effectivement. Et bon, l'histoire, la grande histoire des Lunatiques, on pourra y revenir, là, les débuts de ça, et pour en arriver à où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le début de la vie de l'album Orange Flottant. Au cours des derniers mois, de la dernière année, j'ai envie de dire, t'as également accompagné Hubert Lenoir sur scène, à titre, notamment de saxophoniste, là, peut-être d'autres instruments connexes,
la guitare
avec Hubert.
Guitare, synth, puis du sax, des fois. Mais
des fois.
J'étais plus là comme second sax. Il y avait Félix Petit.
Il faut dire quand même que quand t'as Félix Petit à l'avant...
Ben là, c'est sûr, on va lui laisser le sax, là, parce que là, moi, je suis pas de taille là, à côté de lui.
T'as joué avec Valence également. Tu joues toujours avec Valence.
Oui, oui.
Cette fois-là, un peu de flûte et de saxophone, ouais. Si la mémoire est bonne.
Et de keyboard aussi.
Oui, un peu de
tout. Par se faire là des perks.
Donc, tu sais ce qu'on qualifie de musicien.
Oui, c'est ça.
Tu peux jouer un peu de tout. Mais Antoine, à la base, est-ce que tu viens d'une famille de musique?
Oui. Oui et non. Je dirais, en fait, oui. Par mon père qui jouait de la bass dans un band punk des années 80. J'aime ça dire ça parce qu'il a quand même laissé ça par la suite. Il a voulu faire de l'argent, en fait. Je pense que c'est normal.
Oui.
Mais, tu sais, j'aime ça dire qu'il a joué en première de Black Flag, Subhuman, et des gros bands mythiques punk. Puis bref, puis de ça, ben, en fait, je dirais plus que mes parents, c'est des mélomanes. C'est important pour eux de toujours faire jouer de la musique.
Ouais.
Puis moi,
Fait que t'en as entendu beaucoup.
J'ai entendu beaucoup, puis j'en demandais encore plus. Puis,
ouais.
Ben là, il y avait Internet. Fait que,
tu peux
comprendre la suite, là. Fait que.
Ça va vite, quand
ça
même.
Ça a toujours été là. Puis aussi, je suis enfant unique. Enfant unique rime avec bébé gâté aussi, des fois.
Mm-hmm.
Puis ben, mes parents voyaient que j'avais vraiment une passion pour la musique. Puis Ils m'ont toujours encouragé là-dedans. Ça, je les remercie d'ailleurs. Et puis, à ma fête, ben, je demandais toujours un nouvel instrument de musique.
Ah, okay. Fait
que c'est comme de là que j'ai pu toucher. J'ai accumulé, j'ai un peu touché à tout. Puis,
T'es originaire de Québec, Antoine?
Oui, oui.
Quel secteur?
Saint-Sauveur.
OK.
De 0 seconde à 10 mois.
Okay.
Après ça, Sainte-Foy.
OK.
J'ai pas mal grandi à Sainte-Foy.
Fait que les instruments de musique étaient entassés dans une maison à Sainte-Foy.
Oui, c'est ça. C'était tout là que ça se passait.
On va se les imaginer désormais.
Oui.
Dans le coin de Sainte-Foy. Et donc, ça t'a permis, donc comme tu disais, d'être curieux puis d'essayer plein d'affaires. Mais là, t'as peu. Là, c'est quand même pas rien, là, des instruments de musique. Là. Qu'est-ce qui était ton premier instrument que t'as essayé?
Premier instrument, c'est... la guitare.
Okay.
C'est ouais, le premier vrai instrument
ben oui.
que j'ai
C'est pas une tambourine.
C'est comme moi, ouais, non. Je suis de base un guitariste.
Okay.
J'étais à l'école en guitare aussi. Tu sais, c'est l'instrument à lequel je suis.
Que tu considères ton principal instrument?
Mon principal, puis c'est sur lequel aussi je peux toujours me. Je peux faire n'importe quoi dessus.
Ouais.
C'est comme lui que j'ai plus de contrôle.
Ouais.
Il n'y a pas de.
Tu maîtrises ton instrument, tu fais ça, tu peux t'appuyer dessus en tout
ouais,
temps.
Exactement.
Puis donc, t'as pris des...
Sur lequel je peux le plus m'exprimer.
T'as pris
aussi.
Des cours ou t'as appris un peu tout seul pour commencer?
J'ai pris des cours.
Okay.
J'ai pris des cours depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans.
Ah ouais?
Parce que
hein?
Ça fait vraiment longtemps.
C'est jeune, là.
Ouais, c'est sûr, ils m'ont.
Rendu là, est-ce que c'était ton initiative ou c'est tes parents qui ont fait, Antoine?
C'est mes parents. Puis ben, il y a comme un peu des deux, là. Tu sais, moi, je voulais faire ça, puis eux autres, ils m'ont. Il va prendre des cours. Sauf que moi, j'étais quand même mauvais élève aussi. Dans mes premiers cours, tu sais, ils m'apprenaient à la lecture, puis...
Des notes, c'est guitare classique, là.
Des petites tunes, ouais, guitare classique, puis des petites tunes comme Marie avait un mouton, ou ben...
Ouais, ouais.
Genre, mais moi, après le deuxième cours, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux jouer du Black Sabbath, puis du Metallica, puis...
C'est sûr.
J'ai eu la chance d'avoir un professeur de guitare qui était très ouvert à ça, puis qui, dans le fond, il laissait faire la théorie, puis il montrait juste les tunes que j'aimais.
Ouais.
Et j'ai comme appris un peu. Puis c'était à l'oreille aussi, plus que.
Mais tu dirais que c'est important, justement, d'aimer ce que tu joues de prime abord?
Oui, je pense que c'est quand même aussi important, quand tu apprends la musique, de passer par l'aspect plus théorique.
Mm-hmm.
C'est pas important dans le sens qu'il faut absolument faire ça, mais c'est bon de décrocher aussi des fois de ce qu'on aime juste pour s'exercer. Niveau technique, puis tu sais, juste être capable de après toucher à tout.
Ouais.
C'est ça, c'est améliorer sa technique et tout.
Mais dès le départ, t'étais pas prêt à faire ce sacrifice-là.
Non, mais non, tu sais, c'est aussi, je pense même ça, c'est plus important, c'est de faire ce qui t'allume, tu sais.
Ouais.
C'est de jouer de la musique pour faire des trucs, en fait, qui font en sorte que c'est pourquoi tu joues de la musique.
Ouais.
Comme moi, je trouvais sur Black Sabbath, mais. Fallait que j'en joue, tu sais.
Il fallait quelques petits solos. Mais j'imagine qu'au début, c'est pas si évident à jouer. Il doit y avoir quand même quelques...
Ben, c'est pas si pire. Mettons, on reste sur Black Sabbath,
ouais,
là.
Ouais.
Tu sais, il y a des riffs que c'est juste trois notes, là.
Mm.
Ouais, tu sais, genre, tu sais, qu'on avait...
Ah ouais.
Pam, pam.
C'est juste satisfaisant
c'est
à jouer.
C'est juste ça, le riff.
Ouais.
Fait que là, ça va.
Ça allait.
Mais c'était pas si pire, non. Ça allait. Smoke on the Water aussi. C'est
un grand classique.
Un incontournable.
Ben oui. Donc, t'es passé par ces chemins-là, quand même.
Exact, ouais.
As-tu fait The Horse with No Name?
Non.
Non.
Ça, j'ai pas fait ça. Non. Non, moi, j'ai étudié sur les riffs, plus les riffs que les accords.
Okay.
Ça a vraiment commencé avec les.
C'est ça. T'as un droitier, là. Tout est.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Ça drive.
Ouais.
Donc, dans le rock, beaucoup dans tes influences, à cause, on imagine, de ton papa punk, qui avait un passé sombre, de joueur de bass, ça influence aussi nos oreilles, veux pas. Donc, à l'adolescence, on t'imagine. Un peu dans les communautés de monde qui écoute de la musique punk, rock, métal.
J'étais métal quand
t'étais
même
metal.
Jeune, ouais. Puis ça virait vite aussi hippie quand j'ai commencé à fumer de l'herbe.
Ça, c'est drôle, de métal à hippie,
ouais.
Quand même
ouais,
un bon.
Mais hein. Oui, puis en même temps, il y a quand même quoi qui se rejoint aussi dans le sens que les deux, c'est. Tu sais, le métal, c'est quand même marginal. Puis là, je dis la musique hippie, là, c'est pas. Je parle pas hippie qui fait du pouce vers l'ouest, là. Je parle plus hippie Beatles, là.
Oui, oui, oui. Les années 60, là.
Les années 60, puis c'est ça, là.
Un peu psychédélique.
Du rock psychédélique, ouais. Ben, c'est ça. San Francisco, puis ben, en tout cas, bref, tout.
L'iconographie
ouais,
des années 60 à San Francisco.
Exactement.
On est là-dedans.
Exactement. Puis. Ça, De là aussi, il y a eu le rock progressif. Mm-hmm. Ça a été pas mal mes trois genres que j'ai starté à...
Ouais.
À être plus dans l'underground, là, mettons, ouais. Là, plus à écouter des trucs obscurs. Puis après ça, ben là, je me suis juste aimé toute la musique. Là.
Ouais. Je pense que t'es un curieux de musique, ouais, beaucoup, en général. Comme... qui aime écouter de la nouvelle musique tout le temps. Ouais, puis que, ouais. Là, tu découvrais tes classiques, mais t'arrives à la fin de l'histoire quasiment des bands et t'as toute l'histoire du groupe à découvrir avant.
Ouais, c'est ça. Ben, il y en a de la musique. Tellement maintenant, on peut écouter les anthologies de toutes les bands. De... Tu sais, comme en ce moment, je suis beaucoup dans la passe Wu-Tang.
Okay.
Je découvre tout ce que Wu-Tang a fait, les carrières solo, les artistes. Je trippe sur Wu-Tang en ce moment.
Ah ouais, c'est ça. C'est des épisodes. Là,
j'haïssais ça en plus avant, mais là, je sais que, genre, c'est... Il y a bien des bands que j'ai jamais vraiment écouté, mais je sais que dans 5 ans, je vais tripler.
Ça s'en vient.
Je vais avoir ma passe, tu sais, vraiment.
Fait que là, tu as assez diversifié. T'es parti, donc, de cette espèce de, je vais dire, triangle des Bermudes,
ouais.
Du prog, du psychédélique, du métal.
Ouais.
Puis là, après ça, là, on est rendu à sortir du triangle. Ça devient vraiment là, l'univers des possibles.
Exactement.
En
vive
écoutant
la musique.
Ben voilà. Mais c'est important de rester curieux aussi pour créer de la musique. Tout ça, on pourrait y revenir. Mais j'ai le goût d'aller en musique une première fois, Antoine, parce qu'on jase de musique, on en écoute, puis ça va peut-être nous aider à comprendre le personnage Antoine Bourg à travers les choix musicaux. Donc, tout le long des émissions d'écoute locale, c'est mon invité qui décide de la musique qu'on va entendre sur les ondes, vraiment carte blanche de A à Z. Avec quoi tu veux qu'on commence? Parce que là, tu m'as donné 3 bands pour commencer. On avait The Electric Prunes, Devo et Blockhead.
Ouais, je dirais qu'Electric Prunes, on parlait de psychédélique.
Ouais,
là,
ouais, ouais.
Tiens, ça, c'est un bon,
on est là-dedans.
Bon petit band obscur.
Est-ce que tu peux me parler de comment tu as découvert ce band-là, The Electric Prunes? Parce que moi, ça me dit absolument rien. Fait qu'il faut que tu nous introduises un petit peu quand même.
Écoute, ben c'est dans toute la musique des fin 60, là, c'est comme là la musique garage puis tout. J'ai pu c'est internet là, c'est sûr, c'est à partir de ça. Puis en fait non, même pas, c'était un moment donné, j'avais un ami qui était à l'université Laval ici.
Okay.
Puis j'ai eu sa carte de bibliothèque, ben en fait j'avais fait que je pouvais pogner, j'ai pu fouiller dans les CD ici, puis là c'est là que j'ai découvert les Electric Prunes. Puis parce que tu sais, c'est facile, des fois tu as juste à regarder la pochette, tu dis OK, ça c'est sûr, c'est 60s, puis
ouais.
Tu regardes le l'ando, puis tout là, tu sais que c'est un band que tu vas aimer, puis là ben j'ai été agréablement surpris, un peu garage, un peu psychédélique, bref, en tout cas.
C'est un hasard là. T'es tombé là-dessus.
C'est un heureux hasard, puis c'est un très bon band.
À ta connaissance, c'est un groupe qui était influent à un moment donné ou qui sont restés dans leur niche?
Pour moi,
ouais,
pour
toi, j'imagine que oui. Hein,
pour moi, oui, tout à fait. Mais je sais que, mettons, dans le genre, sont très reconnus.
Okay.
Plus que connus, mettons.
C'est
là,
ça. Une bonne nuance à apporter quand même.
dans le psychédélique, c'était creux là-dedans, les Electric Prunes, tu sais c'est quoi. Là.
Voilà, bon, on va faire remonter ça,
yes.
des creux.
Yes.
psychédélique. Sur les ondes de Chiz 94.3, la chanson s'appelle Wind Up Toys du groupe The Electric Prunes. D'écouter Écoute Locale, les entrevues avec Antoine Bourque.
In the boxer.
Une belle découverte que nous fait faire Antoine Bourque, c'est The Electric Prunes avec la pièce Wind Up Toys. Une découverte qui t'a fait un peu au hasard, mais qui s'avérait être un beau hasard.
Ah, j'adore ce band.
Ouais, on aime ça. Il y a un petit ton très, je disais, un peu français dans la voix, dans la manière de se déposer.
Ouais, ventilée, là.
Ouais, très aérienne.
Ouais, exactement.
Et beaucoup d'air dans la voix. Mais de beaux arrangements. C'est minimaliste, ça le fait. On aime ça. Donc, c'est le choix de mon invité aujourd'hui, Antoine Bourque. On parlait avant la pause musicale de ta découverte de la musique lourde, pesante et psychédélique, en ascendance psychédélique. Et du fait que tu as joué beaucoup de guitare, tu as appris à jouer de la guitare quand même tôt. Puis ça t'a drivé, ça t'a motivé à écouter de la musique et à en faire. Mm-hmm. Mais tu as aussi dit tout à l'heure que tu demandais un instrument de musique à chaque année. Y a-tu d'autres instruments que tu as appris au fil du temps? Y a-tu d'autres instruments que des guitares sur tes listes de Noël?
Ben oui. Le piano, mais en fait, le clavier en général. Ah, parce que. J'avais demandé justement un petit clavier, là, qu'il y a tous les petits sons dessus, là.
Fait
que, évidemment, tu t'amuses là-dessus. Même qu'il y a un son de drum là-dessus. Fait
que, oui, c'est
tu
le fun,
mets
ça.
À jouer du drum sur le clavier. Ça, c'est
un deux en un.
Ça, c'est un, exactement. Il y avait tout là-dessus. Puis, ben, après ça, il est venu le drum. Puis ça, c'est.
Quand t'étais tanné de jouer du drum sur le clavier.
Ça, c'est vraiment un phénomène de jeu vidéo. C'est-à-dire le jeu Rock Band.
Oh, ouais.
Tu sais.
Ouais.
On dirait quand, ben, tu sais, il y avait eu Guitar Hero, là, ça a explosé. Après ça, il y a eu Rock Band.
Ah, là, t'avais le faux drum en plastique.
Le faux drum. Ouais. Juste le faux drum, tu sais, ça faisait quand même, je pense que c'était l'instrument le plus accurate, là, sur, parce que ça te faisait comprendre, physiquement, comment ça se passait, là. Exact, avec les pieds pis tout.
Ouais.
Fait que, de là, la piqûre pour le drum, il me fallait un drum pis, ça en est suivi de la flûte. Après
OK, mais t'as drum flûte, il y a quand même quelque chose ici, là. J'ai une anecdote rapide à squeezer avant ma prochaine question.
Ouais.
J'ai été au camp musical Saint-Alexandre à Kamouraska, qui est un camp musical pour des jeunes, justement, qui jouent de la musique. Ouais. Et moi, mon instrument principal, c'était la flûte traversière. Mon instrument secondaire, c'était le drum.
Oh, nice! Bon, fait que tu comprends.
Fait que j'étais un peu j'avais l'air d'un alien. La plupart des gens jouaient du piano puis de la flûte ou jouaient du drum puis de la guitare.
Ouais,
moi, j'étais vraiment les deux solitudes. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun d'associer les deux.
Oui.
En même temps, c'est plus compliqué, mais un après l'autre, on y arrive.
Oui.
Mais donc, t'as de la curiosité pour tous les types d'instruments.
Oui, puis tu sais, souvent, je venais un peu fou avec ça. C'est comme dès que je l'avais, là, je passais du temps non-stop dessus. Là. Mmh. Puis pendant, genre, c'est drôle, c'est comme si t'as plein de petites relations à court terme.
Ben, ouais,
c'est-à-dire,
ouais.
C'est à long terme parce que je reviens toujours à ça un moment donné, mais je veux dire, tu sais, j'avais un nouvel instrument, puis là, je lâchais toutes les autres, puis là, je faisais du drum pendant genre comme 4-5 mois.
Ouais.
Puis, tu sais, je m'exerçais là-dedans. Après ça, bon, là, c'était autour de la flûte. Puis là, je faisais de la flûte non-stop. Puis,
ouais. Mais est-ce que tu... Parce que, bon, clairement, tu fais la même chose avec les albums que t'écoutes et les artistes que tu découvres.
Mm-hmm.
Donc, t'as cette même relation de intense pendant quelques temps, puis en fait, on passe au suivant.
Ouais.
Est-ce que t'arrivais à sentir que tu maîtrisais l'instrument ou au contraire, tu faisais comme... Ah, j'arriverai jamais à quelque chose, fait qu'on passe au suivant. C'était qu'est-ce qui te faisait changer d'un à l'autre?
Souvent, on dirait c'est que j'atteignais ce que je voulais atteindre avec l'instrument. C'est-à-dire juste le maîtriser un petit peu. Mais je me considère pas drummer ni flûtiste ou claviériste. Quoi que, tu sais, je joue dans beaucoup de bands puis je fais ça. Je suis capable d'en faire puis ça va, mais tu sais... il y a souvent le syndrome de l'imposteur des fois quand je me dis bon ben je joue du sax alors que je connais plein de saxophonistes qui sont tellement forts puis je sais qu'ils feraient tellement mieux que moi mais en même temps tu sais je veux dire je sais que ma force c'est pas juste de faire du sax en tant que tel mettons ça va être de faire du sax et d'autres affaires ça dans un band, c'est quand même...
C'est ta faculté d'être un couteau suisse, finalement.
Exactement.
Qui fait en sorte que t'es un musicien intéressant à avoir dans son équipe.
C'est ça, on peut dire ça. C'est comme toutes les petites épices. Là, que...
Ouais. Ah, t'es le mélange d'épices de Dixie Lee.
Et c'est genre ça. De... C'est ça.
Voilà. Mais donc, c'est c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est pas tout le monde non plus, je pense, qui a cette facilité-là ou cette persévérance-là. C'est un des deux. À réussir à développer plusieurs instruments. Est-ce que tu dirais que une fois qu'on en a un, c'est les mêmes mécanismes qui passent? Tu sais, des fois, les gens qui apprennent des différentes langues, par exemple, disent, une fois que t'en sais une, tu peux en apprendre 15, devenir polyglotte, c'est les mêmes manières d'apprendre. Est-ce que c'est applicable pour la musique, selon toi?
Quand même, oui. Ouais. En fait, ouais, c'est pour ça que je pense que j'ai une facilité à toucher un petit peu tous les instruments, parce que j'ai eu la... Je sais pas, je pourrais même pas dire comment je fais, mais je sais que de la même manière, j'apprends chaque instrument de la même manière, en fait. C'est-à-dire, je fais juste... En fait, je peux dire comment je fais.
Vas-y, dévoile-nous tous tes secrets en toi.
Je fais des tunes, je joue des tunes que j'aime.
Ouais.
Puis par la suite aussi, ben, je vais faire des petites gammes. Juste, ou des gammes chromatiques. En tout cas, bref.
Au piano, par exemple,
ouais,
ou avec.
Exactement. Puis tu sais, juste pratiquer la mouvance des doigts, développer une espèce de mémoire.
Sensorielle, tactile, oui.
Ouais, c'est ça. Puis de là, après ça, c'est ça. Là, à un moment donné, ça... Puis je pense aussi, ma facilité aussi avec les instruments, c'est... Je pense qu'il faut être musical aussi, c'est-à-dire être capable de faire de quoi d'intéressant avec pas beaucoup de notes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ou c'est-à-dire modifier des sons pour que ça soit cool. En même temps, genre avoir jouer du sax, OK, c'est correct, mais si tu mets des effets dans ton sax, à ce moment-là, c'est là que tu peux... aller plus loin.
Okay.
C'est
ça qui fait que tu t'es intéressé aussi à la manière de modifier le son, de jouer avec ça beaucoup, avec, mon Dieu, les technologies.
Les technologies. Oui, à ne pas négliger quand
Effectivement. Y a-t-il un instrument auquel tu t'es essayé puis que t'as pogné ton Waterloo?
Ça veut dire quoi que j'ai pas
ça pas t'as abandonné, t'as dit ça marchera pas.
Il y en a, ouais, les violons.
Ouais.
J'en ai pogné un moment donné, puis ça a pas marché. Ça, genre d'instrument, puis la trompette aussi.
Ah ouais.
Toutes les trompette, trombone, ouais, les embouchures, c'est souvent avant avec une embouchure là. J'ai un cor français, j'ai deux trompettes. J'ai tout essayé. Ça marche pas, on dirait que c'est comme le genre d'instrument qu'il faut que tu maintiennes ta pratique. Ouais. On dirait qu'une flûte, mettons, comparativement qu'une flûte, on dirait qu'à chaque fois, je suis capable de faire la même son. Tu sais, c'est comme souffler dans une bière, là, puis juste faire...
Ouais, exactement, c'est ça.
Tu
ouais.
sais, ça marche un sac aussi, c'est comme facile, là.
Ouais.
Mais non, la trompette et violon, j'aurais bien aimé, mais là, tu sais, ce moment donné, tu peux pas... Hein,
tu peux pas être partout.
Ouais, tu peux pas être partout temps, là.
Mais quand même, tu y es essayé, parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est World Domination rendu là, si tu voulais tout jouer, donc...
Je voulais tout jouer, ben là, c'est sûr, c'est tellement le fun aussi quand tu peux, tu fais des nouvelles sonorités, là, c'est comme mon petit... Un petit bonbon, là.
C'est ça. T'étais étudiant en guitare, donc, en bout de ligne. Est-ce qu'il y avait d'autres choix de carrière qui se dessinaient devant toi, ou est-ce que t'as tellement joué de musique que tu t'es dit que c'était la seule voie à emprunter?
C'était pour moi, c'était clair, ça. Puis je sais que ça allait être dur, puis ça l'a été dur. Encore là, je peux pas dire que c'est facile. C'est super dur comme métier. Au début, c'était clair, c'était ça. Mais à un moment donné... T'sais, même encore là, je me suis donné des plans B. Il y a eu la pandémie aussi. Fait que là, tu t'es dit, OK, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Là.
Admettons.
Mettons qu'il y a une autre pandémie, là, puis là, ça shut down.
Si la musique n'existe plus.
Si ça existe plus, ça devient illégal, peut-être. Oui. On sait jamais.
On sait jamais.
Mais j'ai des plans B. J'aimerais ça, moi, être dans le cinéma. C'est-à-dire, pas devant la caméra, derrière la caméra.
En fabriqué.
C'était plus comme perchiste. Mais j'ai fait aussi un AEC en sonorisation.
OK.
Fait que je trippe quand même sur les micros, puis le son, toutes ces affaires-là, ça me fait tripper. Fait que être perchiste, là, sur un plateau de tournage, j'ai pu faire ça avec Noémie D. Leclerc.
Oui, mon Dieu, oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié cet épisode-là.
Pour son documentaire.
Oui.
Puis ça a éveillé de quoi en moi, là. J'ai vraiment trippé, puis c'est...
Une autre affaire. Mais on peut dire, Antoine Bourque, que t'es quand même un geek. Tu tripes sur les choses à fond.
Ouais, quand même. Ouais. Quand même, je vais pas à moitié quand il y a un truc qui m'enchante.
Tu t'investis dans ce que t'aimes, dans ce qui pique ta curiosité, jusqu'à aller au fond des choses, puis à essayer le plus de choses possible. Donc, c'est de la curiosité qui te motive.
Ouais. Est-ce que c'est une bonne affaire? Ben justement, des fois, tu peux pas exceller dans l'affaire. Voilà. Mais bref, j'aime ça toucher à tout. C'est ça. Tout me fascine.
Fait que toujours ça, c'est le choix entre être pas pire dans tout et excellent dans rien.
Exact. Exact. Mais je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je suis juste excellent en guide. Hein. Puis après ça, je suis pas pire dans
tout. C'est
dans,
ça. Ce et on s'assume bien.
Ouais, exact.
Ça a été quoi, Antoine, ton premier band dans lequel duquel tu vas être parti?
Mon premier band, ça s'appelle G2.
Oh.
La lettre G.
Ouais.
Puis un 2.
OK.
J'avais.
J'ose pas te demander.
J'avais 8 ans. La première chanson qu'on a composée, c'était moi et mon ami. Ça s'appelle J'ai trouvé une tortue dans mes culottes.
Nice.
Ça a été le premier single.
Wow.
Ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été sorti.
Mais ça existait.
Ça existe. G2.
G2. That's it.
Écoute,
j'ai trouvé une tortue dans mes culottes, tu t'en souviens?
J'ai trouvé une tortue qui était dans mes culottes. Ça, c'était l'air, ça.
Une primaire chez.
Écoute, ça n'a pas été enregistré. Et je me rappelle encore du riff. S'il y avait une guitare, j'aurais pu la jouer, là, mais. En tout cas, ouais. Oh, il y avait aussi la toune J'ai laissé. Ça, c'était la toune plus sentimentale.
Est-ce que toutes les chansons commençaient par G?
C'est non, mais c'est J'ai laissé J apostrophe.
Je sais, mais là,
j'ai. Ouais, c'est vrai, j'ai trouvé une tortue. Ah, ouais, ça aurait pu. En plus, deux tounes commencent par G. G2.
Voilà.
Hey,
il y a quelque chose.
Fond, il y avait un concept que j'avais pas vu là-dedans. C'est fort.
On s'en rend compte quelques années plus tard.
Ouais.
Quand même. Et là, tu jouais de la guitare ou j'ai des petites tounes?
Ah ouais, ben tu sais, c'est le classique. Tu sais, parce que c'était mon ami que ses parents étaient amis avec mes parents. Fait
ouais, voilà.
On faisait souvent des soupers ensemble. Puis là, on était classique.
Dans le sous-sol?
À préparer un spectacle pour les parents. Puis
wow.
Le moment donné, on leur dit « Hey, on a un spectacle à faire. »
Cute.
Là.
Mais donc, ça a quand même été les premières... tu sais, on compose une chanson, on le présente à quelqu'un.
Mm-hmm.
C'est la barrière psychologique de faire ça qui tombe dans ce temps-là.
Ouais.
Très, très tôt et très, très jeune. Donc,
quand même, tu sais, c'est ça, c'était le c'était naturel, en fait, de monter de quoi.
Voilà, de faire un spectacle.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'au secondaire, t'as eu des bands? T'as joué dans les parties de...
Oui, mon premier band, mon premier vrai band, là, je suis parlé de mon band de fantasy, là, mon premier vrai band, ça s'appelait Hellscream. C'était du métal. Ça,
on imagine.
Exactement. Mais là, ça, on faisait des covers.
OK.
C'était du Megadeth, du Slayer, du Metallica.
Ça jouait vite.
C'était technique au bout. Puis, il y a eu une petite compo à un moment donné, mais c'est ça. C'est allé. Moi, je sais que j'étais parti parce que j'aimais pas ça, les covers. J'étais plus capable.
T'as manifesté contre les covers.
Oui, exactement. Puis là, j'ai fait mon petit duo humoristique, Barry Bourque. Je sais pas si t'as déjà vu ça passer.
Ben non, je n'ai pas eu cette chance inouïe, Antoine Bourque.
C'est avec mon ami Sacha Barry. C'est ça, Barry Bourque, voilà.
C'était comme du folk. Humoristique. Ça, c'est de la musique
c'était
drôle.
Folk, mais c'est parce que ça, justement, c'était ma phase que je trippais beaucoup sur Pépé et sa guitare, puis mon oncle Serge. Fait que là, ça découle vraiment de tout ça. C'était,
okay.
On faisait des petites tounettes qui étaient comiques. Puis c'est un peu aussi le proto-lunatique, okay. Barry Bourque. Ça a comme mergé en. On achète on avait déjà des instruments électriques, mais on compose
investi,
avec nos instruments électriques.
Ouais,
puis
ouais.
On faudrait quelqu'un au drum.
OK, mais
synth,
ça a commencé comme ça, une petite collaboration à deux, de faire des tours. Puis là, on est dans quelle année dans ce temps-là?
Ben là, Barry Bourque, c'est secondaire 5, c'est en 2012.
OK.
2012, Lunatique, là, les premières bribes des Lunatiques, c'est comme en 2014.
OK.
Ça fait quand même longtemps, ça fait quasiment 10 ans.
Pas si longtemps que ça, mais
pas
oui.
Pas si longtemps, mais tu sais, mais c'était encore pas. C'était pas sérieux, tu sais. C'est-à-dire, c'était sérieux dans le sens qu'on pratiquait, tout, mais c'était pas. Tu sais, on pensait
pas. Faire une carrière.
Non, mais tu sais, c'est ça. C'était comme genre, on s'amusait beaucoup avec ça. Plus que genre, on veut vraiment pousser ça.
Ouais, j'ai toujours eu ça quand même, d'avoir un band, de faire des shows pub pour vos amis, j'imagine, dans différents contextes. Mm-hmm. Et là, on doit faire, mon Dieu, une pause publicitaire rendant cette anecdote au suspense insoutenable. On se peut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les lunatiques, finalement, se sont mis à faire des tout nets drôles? Est-ce que, finalement, il y a eu une tournée internationale de Barry Bourque? On le saura après la pause.
À suivre.
Écoute le cal, les entrevues sur les ondes de Chiz.
À vide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé, d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui sont aussi amies et cousines. Ben, je vous suggère fortement d'écouter l'émission culturelle et anecdotique 10 entre nous.
À travers des thématiques variées, on vous fait part de nos expériences personnelles et communes, de nos meilleurs souvenirs de jeunesse, en s'appuyant chaque fois sur la musique, le cinéma et la littérature. À 10 entre nous, la nostalgie coule à flot et ça se passe un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 89.3, le concert rock et post-punk du groupe italien Buñuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca.
De retour à Écoute Locale, les entrevues, c'était Blockhead de Devo.
Ça décolle le partiel.
C'est fun, j'aime ça. C'est, en même temps, c'est accessible, ça bouge, ça se danse. C'est bon, Devo.
C'est fort, Devo.
C'est fort, Devo. Quand est-ce que tu as découvert ça, toi? Ta phase intense, Devo, c'était quand?
Devo, parce qu'on... c'est comme la phase post-punk New Wave. Là.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est arrivé à mes 21, 22.
Ah, c'est un bon crunch, ça,
ouais,
pour écouter de la musique.
Exactement.
Effectivement. Et c'est drôle parce que, bon, on reconnaît Devo, notamment, bon, oui, pour leur accoutrement. Il y avait un look visuellement assez éclectique. Il y avait les petits chapeaux hein, de Devo qu'on ouais. reconnaît au premier coup d'œil. Et je dois dire quand même que à votre lancement vendredi dernier, j'ai eu quelques relents de Devo sur une séquence où, je vais le dire, est-ce que c'est un punch que je devrais
non,
ne
non.
pas révéler.
Non, bon. Dis-moi en plus.
Ouais, ouais, dis-moi en plus.
Dis-moi en plus.
Moi qui n'ai pas vu le spectacle, n'est-ce pas? Mais donc, il y a une séquence dans le spectacle de lancement de l'album Orange Flottant des Lunatiques vendredi dernier au Pantoum où les musiciens ont enfilé une tête de télévision. Donc, il y a une télévision.
C'est Devo, j'avais même pas pensé.
Mais un peu
ça.
Quand même, hein?
Complètement Devo.
Avec une chanson un petit peu également dans l'électronique, dans mm-hmm. le petit robotique, avec
ouais.
des petits mouvements de chorégraphie.
Ouais.
Avec, justement, c'est pas un chapeau, mais c'est vraiment une télévision à travers laquelle l'écran était remplacé par un tulle. Il était vide. N'ayez crainte, oh, personne n'a été blessé dans l'exercice. Mais c'est comme, non, des espèces de têtes de mascotte de télévision, si vous voulez, qui étaient enfilées à l'occasion d'une chanson. Hein. Ça a fait un effet bœuf. Ça fonctionnait très, très bien. Visuellement, mais donc oui, il y a un petit peu de ces influences-là, j'ai l'impression, de costumes de scène, d'avoir un One Piece, parce que les lunatiques sont quand même facilement reconnaissables. Vous ne l'avez pas inventé, mais quand même, à Québec, c'est vous autres qui avez les One Piece de couleur. Là.
On s'approprie le mode Power Rangers.
Un peu, effectivement.
Ouais.
qu'est-ce que t'aimes, toi, Antoine, dans un spectacle? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas dire... Eux autres sont bons en show, puis eux, non.
Ben, moi, ce que j'aime dans un spectacle, c'est les moments que tu vis à un moment donné. C'est-à-dire, justement, puis ça, j'essaie de mettre beaucoup ça dans mes shows, juste mm-hmm. un moment où il se passe quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas juste genre tu vas écouter puis tu vas triper. Il se passe de quoi de genre... Que le monde va se rappeler précisément de mm-hmm. ça, tu sais, mettons juste, pis c'est niaiseux, ça peut aller juste à, tu sais, quand ça arrive souvent, là, dans un festival, mettons, là, le monde... Ben, le band dit à tout le monde de se baisser puis juste de se lever. Tu sais, ce
un
genre
classique.
De truc-là que... Tu sais, l'effet de masse aussi, ça rend
ouais.
fou, là. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, t'es c'est ça, tout ces
tout
petits
trucs-là. Tu vis
tout
vraiment plus aussi dans ouais. une foule. Tu sais, que si tout le monde vit un peu le même moment,
ouais.
la catharsis de tout le public, ça
ouais.
crée quelque
je
chose d'énorme.
Je pense juste genre au Hey Babies, comme il y a un décompte de 10, 9, 8, 7, qui descend jusqu'à 0. Puis juste ça, je trouve que c'est un moment qui est cool parce que tout le monde participe, tout le monde est dedans,
ouais.
tout le monde... Puis, tu sais, encore là, je pense que c'est peut-être le truc que je me rappelle le plus du show. Ben, c'est un bon show, là. J'adore
ouais,
les
ouais.
babies.
Mais quand tout le monde se rallie autour d'un moment.
Ben, quand il y a quelque chose qui se passe, ça, c'est, tu sais, pis, j'aime pas ça quand il se passe rien. J'aime ça apprécier la musique aussi.
Ouais.
Je vive la musique, tu sais.
Vive la musique. Mais, oui,
mais tu sais, quand le spectacle, des fois, t'amène à
ouais.
un autre niveau.
Un peu de mise en scène.
Un peu de mise en scène, le côté plus performance qui
ouais.
est là. Ça, j'aime ça quand il n'est pas négligé puis qui te laisse pas indifférent.
Ouais. Te souviens-tu du premier spectacle que tu as vu? Mettons, gros show. Mettons, le premier...
Premier spectacle ouais. que j'ai vu, c'est Alice Cooper.
Oh, wow!
À l'Agora en 2002. J'avais 7 ans.
Je suis jalouse.
Mais je fais beaucoup sur Alice Cooper. Puis justement, on parle de performance. Lui, il se promenait... il y avait un boa? En tout cas, un serpent.
Un gros serpent.
Un tabarnouche,
un très,
gros,
très
serpent
gros serpent
qui traîne, puis il chante, puis là, il fait aller, puis là, tu vois, le boy se fait aller la langue. Puis il y avait aussi une épée avec plein de billets d'argent dedans, puis qui faisait juste... qui était
pitcher de l'argent,
de l'argent
à la pointe de l'épée.
Exactement. Tu sais, il est tellement... La scénographie de Alice Cooper est tellement éclatée, puis Halloween-esque.
Mais c'est théâtral.
C'est super théâtral.
C'est un personnage.
Je te dirais que dans le fond, ouais, ça m'a marqué beaucoup. J'avais pas fait le lien, mais comme premier show, ça m'a vraiment frappé.
Donc la barre est haute pour la suite.
Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai vu Sum 41. C'était cool aussi, mais Alice Cooper, ça m'a vraiment marqué.
Clairement.
Très jeune.
Est-ce que tu penses que. Où est-ce que tu trouves que la scène musicale locale de Québec en ce moment, telle qu'on la conçoit, il y a beaucoup de bands en ce moment, c'est cool. Il y a quand même, je trouve personnellement, cette sensibilité au spectaculaire dans presque chacun des bands qui se démarquent de la scène de Québec. Tu sais, ceux donc, qui sortent beaucoup de la ville, on entend parler beaucoup. Souvent, il y a ça, ce volet sur scène spectaculaire. Puis moi, j'ai toujours attribué ça au succès du métal à Québec. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très théâtral dans le métal, dans la représentation, que ce soit dans l'extrême de Alice Cooper ou juste dans la manière dont Metallica va se tenir sur scène. Il y a quelque chose de ça, puis je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être une parenté dans le fait qu'on vive dans une ville où on nous stéréotype même de trop aimer Metallica.
C'est ça,
t'sais.
D'être une ville élevée, là, pareil.
Ouais, mais de se dire qu'il y a quand même quelque chose dans le spectaculaire, puis peut-être justement dans les premiers shows que les gens ont vus étant jeunes, qui étaient empreints de ce théâtre-là.
Probablement que ça nous a influencé beaucoup, sans qu'on le sache.
Parce que c'est fou, là, comme
chose. Puis c'est vrai que... pour avoir vu énormément puis fait beaucoup de shows avec les bands de la ville de Québec, j'ai toujours remarqué qu'il y avait un souci du... Déjà, juste le costume était... Puis la présentation de cinéma... J'ai toujours trouvé qu'on se démarquait beaucoup comparativement à Montréal, mettons. Ça, c'est... Puis là, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, là, mais moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment plus cool que, justement, la mise en scène soit de quoi de plus fort, plus... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être c'est à cause des shows qu'on a vus ici, où, ben, tu sais, on est plus... c'est plus élevé, mettons.
Ouais.
Très
exubérant, en tout cas, comme personnage de scène.
Ouais.
Je pense aussi à Anatole, je pense aussi à Gab Paquette.
Entre autres. Ouais, c'est ça.
On est là-dedans.
Il y a une grosse gang, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vu des bands, mettons, de Montréal. Là, je parle beaucoup contre Montréal. Là,
mais
bref, juste apporter des éléments de décor, là, où c'est pas arrivé souvent. Tu sais,
parce que ces dernières années, il y a cette tendance-là, en tout cas à Québec, qui se dessine. Puis je trouve ça, en tout cas, je trouve ça intéressant de savoir que ton premier show, c'est Alice Cooper à l'Agora de Québec. Je trouve qu'il n'y a rien de plus Québec que ce que tu viens de dire, là. Et ensuite, ben, ça pave le chemin pour la suite. Mais après, c'était Sum 41. Fait que tu vois, on est quand même ailleurs. Mais
à l'Agora encore.
À l'Agora encore. Moi, j'ai vu quelques fois Sum 41 à l'Agora. Ouais. Mais on est dans la musique pesante quand même. Puis dans les spectacles qui graffinent. Puis ça déménage. Puis ça se pousse quand même solide aussi, là, dans les spectacles de Sum 41 à l'époque. Donc, dans les années début 2000, début 2010, dans ces eaux-là. Mm-hmm. Donc, une belle décennie de musique. Antoine, ton premier gig professionnel, c'était avec les Lunatiques? Tu as dit, OK, là, je m'emmène, puis je pense que je vais faire de l'argent avec ça? Ou c'était avec un...
C'était avant ça, c'était Barry Bourque.
OK.
C'est comme là que ça commençait à plus... c'est-à-dire que j'ai fait des shows à l'extérieur, mettons, puis avec des cachets de... des vrais cachets pour musiciens. Musicienne, puis comme je pense, j'avais fait une tournée en fait avec le Parti Rhinocéros.
Wow!
Puis ça, on dirait que c'est comme, ça a été ma première tournée, puis comme c'est là que j'ai vraiment catché la game de la route.
Wow!
Ce que ça impliquait, tu sais, genre vraiment vivre le. Tu te déplaces en quelque part.
On imagine que c'est pas très glam non plus, la tournée du Parti Rhinocéros. Je sais pas.
C'était très quelque chose, je te dirais. J'ai pas une belle expérience, on va t'avouer. Mais bref, parce que je vais pas rentrer dans les détails.
Mais une première tournée, t'es pas vieux non plus. T'as un petit projet avec un de tes amis.
J'avais genre 17 ans.
C'est
là,
ça,
puis,
non.
Ça me forgeait beaucoup pour la suite. Puis ça m'a fait catcher aussi c'était quoi, c'était comment, puis comment faudrait que ce soit aussi. C'est là que j'ai compris que...
Ce que tu veux, ce que tu veux pas.
Ouais, exactement. Ouais.
Définitivement. Tu m'as dit tantôt que Barry Bourque, c'était proto les Lunatiques.
Oui.
Donc, c'était l'espèce de période avant que peut-être initiée l'existence des Lunatiques qui arrive autour de 2014 dans l'histoire du groupe. Comment ça s'est passé, la formation de ce groupe-là?
C'est carrément... ça a été... Ben, Barry Bourque, avec mon ami Sacha, qui est aussi le musicien avec lequel j'ai eu la plus grande chimie musicale, c'est-à-dire début secondaire, on jouait tous les midis ensemble. Mm. On était tout le temps ensemble. T'sais, lui jouait du violon, puis après la bass. Puis on s'est tellement amusé là-dedans, on a tellement jammé, je pourrais pas compter le nombre d'heures. Là. Mais à un moment donné, t'sais, au cégep, il y avait le fameux concours cégep en spectacle.
Qu'on a tous fait.
Exactement. Puis là, on voulait un band, on voulait pas juste un duo. Fait que là, de là, on s'est dit, bon, fait que c'est plus Barry Bourque, on est plus que deux. Fait que on peut pas mettre juste nous comme premier plan, faut qu'on aille un band, un autre band. Puis on n'a pas pensé trop longtemps, c'est devenu Les Lunatiques. Encore là, moi, c'est drôle, parce que Les Lunatiques, je trouve vraiment pas que c'est le meilleur nom de band. Je te dis ça, là. Mais au final, tu sais, c'est tellement devenu... Ça a tellement été longtemps ça que je m'en fous. Je suis comme, gars, c'est ça. Puis c'est pas plus grave, tu sais. Puis mais c'est que je trouve que ça fait très cégep, justement, comme nom de band. Puis c'est drôle, mais garde ça.
On l'assume dans l'esthétique jusqu'au bout,
garde,
je pense.
C'est ça, garde, je le garde, puis... Puis, bref, ça débute, c'est qu'il fallait faire un show des Lunatiques, puis ça s'appelle Les Lunatiques. Puis bref, c'est pas en tous les membres avec qui on a enregistré après par la suite. C'est juste, fallait trouver un nom, puis ça a été ça. Puis après ça,
Avez-vous gagné, ça, le spectacle?
Non, pas du tout. Non, on a fait une tune, c'était tellement à prog. Là, on était vraiment, on aimait ça, les trucs complexes, puis un peu trop, je pense. Ça a joué beaucoup sur... parce qu'on aimait tellement les trucs poussés, puis qui étaient flyés, que ça c'était pas pour rejoindre beaucoup de monde, je crois.
Ouais. En tout cas, vous avez été des incompris de ce genre de spectacle, mais ça a pas empêché le nom de survivre et le groupe de survivre, en tout cas.
Ouais, c'est ça, mais étonnamment, ça a comme commencé de ça, puis c'est comme resté de même par inadvertance.
On n'a juste rien fait, puis c'est juste ça qui est arrivé.
À un moment donné, on a rejoué avec du monde, puis c'était comme on disait Les Lunatiques. On disait c'était ça.
C'était ça. À quel moment est-ce que vous avez vraiment eu, peut-être, je veux dire, arrêté officiellement les membres du band en disant, OK, il y a certains changements, tu m'as dit.
Quand on a enregistré, c'était avec Sacha, avec Pascal Larose-Pichet, puis François Pelletier, qui est encore dans le band à ce jour. C'est là qu'on a dit, garde là, on a de quoi de cool, puis on aime ça, faire ça. Fait que là, tu sais, il faut qu'on enregistre. T'sais, c'est quand on s'est dit, OK, faudrait qu'on sorte de quoi de physique. Faudrait qu'on.
Ouais.
Nos tunes deviennent concrètes.
Ça, c'est un premier EP.
Ouais, exactement. Premier EP, essayez-les. Ça a été très homemade.
Ouais.
En fait, on a toujours été très homemade. De tous nos EP, en fait, ça a été homemade.
Je pense que tu peux même encore le dire aujourd'hui. Il y a quand même un volet homemade.
Il y a un volet homemade. Mais tu sais, mettons, Orange Flottant, ça a été notre première vraie expérience studio pour le groupe. Là. Puis, ce qui était très cool.
Oui, mais avant, il y avait deux EP. Donc, il y a eu Essayez-les.
Oui, L'Épouvantail.
Oui.
Là, ça devenait plus pro un petit peu.
Ouais.
Puis Cache-Cache.
Cache-Cache qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, mais qui, je pense, pour moi, à mon avis de journaliste, c'est celui-là, je pense, qui a le plus fait parler de vous, puis qui vous a un petit peu plus mis sur la map, puis accéléré, peut-être, justement.
Complètement. On dirait que c'est là qu'on a développé une maturité musicale, puis une espèce de. Autant, je pourrais dire la direction en même temps, mais c'est parce qu'on prend tellement de directions différentes. Ouais. On veut pas rester dans une affaire, puis ça, si on y tient, là. Mais, je sais pas, on est comme... puis aussi, ça, l'album, je le faisais écouter à du monde au Pantoum, puis c'est là que Durvie était intéressé à signer avec nous autres, parce qu'il était comme, OK, là, c'est
avec nice, cache-cache.
Exactement.
Ouais. La production était bonne, il y avait un vidéoclip, il y avait quand même des efforts aussi, puis une équipe qui gravitait autour.
Ben là, l'équipe, c'est ça. Puis je pense que tout le monde, collectivement, on se rendait compte qu'on tenait de quoi, fait que là, on est allé... plus en profondeur par la suite.
Mettre de l'énergie là-dessus.
Oui, exactement.
Un peu plus. Est-ce que avec les... D'abord, je sais que tu as plusieurs projets quand même, donc ça te permet d'élargir un peu tes horizons, de jouer un peu plus de keyboard là, un peu plus de flûte là, puis un peu plus de git. un peu ailleurs, j'imagine que ça aide un petit peu le TDA à rester en place.
Ouais, ça aligne mes flûtes.
Ça aligne littéralement tes flûtes. Ouais. Est-ce qu'avec les Lunatiques, il y a quelque chose... Tu sais, quand tu fais des choix, puis tu vois, OK, là, j'ai mon band, c'est là-dessus que je mets de l'énergie, c'est là-dessus qu'il y a des choix à faire. Si tu veux que le groupe pour lequel tu écris des chansons aille de l'avant, est-ce que c'est des choix qui sont déchirants pour toi des fois de dire on m'offre, je sais pas, où il y a une tournée où je pourrais, tu sais, de voir l'étendue des possibles, l'éventail des choix que tu aurais autant comme musicien que comme autant compositeur-interprète avec les Lunatiques, mais qu'il faut quand même que tu mettes du temps peut-être à un endroit plus qu'à un autre?
Ouais, ben ça a toujours été un peu difficile parce que justement je suis tellement dans des bands que des fois j'ai pas le temps de m'occuper de mon propre projet.
Ouais.
Puis aussi m'occuper de mon propre projet, des fois je vois comme un espèce de devoir aussi, parce que tu sais, c'est pas juste faire de la musique, des fois c'est juste, c'est même rempli, d'écrire son projet, monter des subventions, faire, tu sais, c'est tout.
Ça fait aussi partie de la game.
Ouais, c'est ça, monter des demandes de subventions. Mais c'est comme un... oui, c'est difficile de composer avec tout ça. C'est un bon défi, mais j'ai tellement composé tout le temps que c'est comme naturel en même temps. Il y a comme... je pourrais pas arrêter. Puis même si les lunatiques n'existaient pas, je composerais mon bar pour le fun. Ouais. C'est comme...
Ravivi Barry Bourque.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf que j'adore... j'aime tellement aussi... tu sais, sur ce projet-là, je suis au premier plan. C'est-à-dire, je chante, c'est mes compositions. C'est le projet dans lequel je fais mes trucs.
Ouais.
Mais être au second plan avec d'autres bands, c'est quelque chose que j'adore aussi. Il y a comme un stress moins énorme avec ça. Là, il y a quand même, je suis plus relax. Il n'y a plus... bref, mais l'un va avec l'autre, on dirait. J'aime tellement ça, toucher à tout, faire tout. Fait que c'est comme... en tout cas... c'était quoi la question?
Ben, c'est des choix déchirants, fait que la réponse, c'est oui, absolument, tu dois les faire. Mais de toute manière, tu continues à composer. Donc, c'est des choix à faire, mais en même temps, en arrière, peu importe ton emploi du temps, peu importe les contrats, tu continues de composer des chansons, de la musique. Y a-t-il des chansons qui dorment dans les tiroirs puis qui sortiront peut-être jamais?
Oui, c'est ça.
T'es totalement, un genre à...
j'ai une grosse valise.
Avoir une background task qui roule toujours.
Exactement. Même que des fois, des trucs qui sortent, ça a été composé il y a 6 ans, là. C'est vraiment c'est selon. Des fois, si je suis dans une autre phase, des fois, je pogne des trucs que je compose, paf.
Ça peut dépendre de la musique qu'ils écoutent aussi, selon ce qu'on a compris.
Oui.
Il y a des bulles, donc, prochainement, dans le Wu-Tang Clan, peut-être que ça va nous donner un autre type de tune.
Prochain album, on est rap au bout, là. Rap old school.
Dieu sait où les lunatiques vont aller. Peut-être même qu'on sera du côté de la musique de David Byrne, parce que c'est ça qu'on va écouter, Antoine.
Yes, oui.
David Byrne, parle-moi un petit peu.
Écoute, David Byrne, ben là, les Talking Heads de 1.
Ouais.
Ben, c'est ça, c'est le chanteur des Talking Heads. C'est un de mes bands favoris, que ça a changé beaucoup ma perspective de la musique, la façon de faire les choses. C'est tellement un artiste complet, David Byrne, dans tout ce qui touche.
Il a continué en solo, en plus.
Il a continué en solo, puis lui, il fait même... Il a touché à tout. Il écrit des livres. Il a fait... il y a un show sur Broadway qui s'appelle American Utopia.
Utopia, oui, c'est ça, je suis en train de le
American
de lire.
Utopia.
Ouais.
Puis dans le fond, c'est un show que j'ai vu quand j'étais allé à New York. Puis je savais pas qu'il y avait ce show-là quand j'ai juste un moment donné checké. J'étais sur Broadway, puis j'ai juste
bien,
vu
hein?
les shows, puis j'ai fait genre, ah, David Byrne, il fait son show sur Broadway, faut que j'aille voir ça. Puis encore là, ça l'a monté mon respect pour cet artiste-là, il est tellement complet. Même niveau physique, comment il danse, comment il parle avec le monde, sa vision des choses, c'est comme un philosophe aussi, en même temps, on dirait.
Dirais-tu que c'est comme un genre de role model pour toi, de musicien?
Complètement. Ouais. Là, c'est vraiment... ça m'a marqué d'une manière que je pensais pas pouvoir être marqué encore. C'est-à-dire, mettons, au secondaire, on est tous marqués par Pink Floyd, mettons. Genre, tu sais,
Des périodes charnières de la vie, généralement, on a des artistes qui nous marquent
Puis, tu sais, des fois, des moments où tu te dis, genre, pourquoi il n'y a rien qui me donne des gros flashs?
Oui, il y a aussi des moments plates, là.
Ouais, c'est ça, des moments plates, tu te dis, genre,
j'aime plus rien.
Il n'y a pas un comme Jim Morrison, là, qui m'a marqué, ou genre, tu sais. Genre, moi, si je dis ça parce que j'ai eu ma phase de mener les Doors. Tu sais, j'étais genre, wow, ce band-là. Puis là, quand c'est arrivé, c'est arrivé à un moment où je pensais que
tu croyais plus.
Ouais, c'est ça. Puis là, ça, c'est arrivé, puis j'étais comme genre, wow. Là,
comme redécouvert l'amour. Comme,
ouais, puis d'une autre palette musicale, j'étais comme genre, wow, OK, les Talking Heads, David Byrne, tout ce qui entoure ça, c'est mon nouveau truc, là. Je trippe. J'ai acheté son livre. J'ai tout.
On l'a.
Bref.
On va aller l'écouter.
J'adore. Puis cette tune-là, j'ai découvert dans la comédie musicale. c'est comme de sa carrière solo, là. C'est comme en 2007, je crois.
Oui, ça fait un petit bout déjà, en fait.
Ça fait un petit bout, mais c'est pas une période que je trippe. Je trippe pas nécessairement tant sur la musique en 2007, dans ce coin-là.
Mais en fait, on est en 2012. Toi,
2012,
tu t'étais,
OK, ouais.
T'étais quelque part.
Moi, j'étais ailleurs, j'étais au fin secondaire.
Ah, là, c'est ça. 2012, l'album s'appelle Love This Giant. En fait, c'est un album qui met en collaboration l'artiste Annie Clark de son nom d'artiste Saint Vincent. Et, ben, évidemment, on l'a nommé David Byrne. C'est sorti en 2012, mais on l'écoute aujourd'hui en 2023 parce qu'il n'est jamais trop tard pour
c'est
faire
bon.
De belles découvertes.
Ça reste encore bon.
Donc, je devrais écouter la télévision ou plutôt la radio. I should watch TV de David Byrne et Saint Vincent sur les ondes de chaise. Arrangements les plus surprenants qu'on aura entendu aujourd'hui sur les ondes de Chiz. C'était donc la pièce I Should Watch TV, une découverte d'Antoine Bourque qui l'a fait à travers le show de Broadway de David Byrne qui s'appelle American Utopia. C'est avec Saint Vincent et c'est sorti initialement sur l'album I Love Giants en 2012. Ça, c'est pour vous donner toutes les informations pour aller faire votre propre recherche. Faites vos recherches, mais surtout lorsqu'il est question de musique. C'est un peu ce qu'on a découvert avec toi aujourd'hui, Antoine, qui était un gars qui fait ses recherches.
Oui, pas mal.
Qui aime la musique, qui aime en écouter, qui aime en
faire.
Une chance.
Wikipédia aussi.
Ça a tout changé. Ça a tout changé, mais ça nous aide aussi à comprendre le musicien que tu es, le compositeur que tu es, puis mon Dieu, le mélomane, d'abord et avant tout. Je te souhaite une bonne écoute avec les disques que tu nous as dénichés ici,
oui,
dans les boîtes.
Ça, hein.
À Chez, ici, on a des boîtes de disques un peu random, des choses qui ont été souvent discartées, qui n'ont pas fait la cote, qui n'ont pas passé au conseil, et mais qui sont au demeurant quand même de belles découvertes, de bons artistes, seulement peut-être un petit peu moins dans le répertoire chésien. Et ben Antoine nous a fait une petite sélection. Tu veux-tu nous nommer ça?
Ouais, je peux m'en parler de ça. Ben là, il y a un Agnostic Front, qui est un band de punk, mais live à CBGB.
Donc, qui est un endroit mythique là, pour le punk à New York.
Pratiquement, là, c'est là que le punk a été créé.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai écouté le film pas longtemps, l'histoire de CBGB. On a-tu le temps d'en parler?
On a une minute.
Ben, CBGB, là, ça a été créé. CBGB pour Country, Bluegrass and Blues. Puis dans le fond, finalement, c'est pas pan tout
c'est
ça. C'est le punk. Ça devrait juste s'appeler le P.
Le juste P.
Le P,
ouais,
juste
oui.
P. Ben,
c'est fascinant.
Bref, ça doit être cool. Il y a Ovoids, je sais pas c'est quoi.
La
pochette est cool. La photo de Ben aussi, elle a l'air hot. Il y a aussi The Kind Times. Ça a l'air d'être du rap. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est les petites graines de plantes potes qui est dans le CD, que je suis obligé de le casser pour aller les prendre. Donc, c'est vraiment spécial.
Dans la rate du CD, on a caché.
Ouais, il y a à peu près comme 12 graines de plantes potes. J'espère que c'est des... J'espère que c'est du sativa.
Moi, ouais, donc, on se revoit dans un an, tu me parleras de tes plans. Dénuché à Chiz 94.3. C'était Antoine Bourque, mon invité aujourd'hui à Écoute Locale. Les entrevues, on se revoit dans 2 semaines pour mon prochain invité. Merci Antoine, c'était un plaisir.
Merci à toi, Émilie.
La semaine prochaine, on parle à quelqu'un qui a réussi à jouer du violon, pas comme toi.